À l'école, on avale des tas de choses qu'on s'empresse d'oublier une fois l'interrogation passée. Un jour, j'ai appris les noms des sept merveilles du monde antique. L'une d'entre elles était le Colosse de Rhodes, une immense statue de 32 mètres dédiée au dieu soleil et érigée sur l'île de Rhodes. Il y a autre chose dont je me souviens de l'école. Quand j'essayais de mémoriser des pages d'informations, je me mélangeais souvent les pinceaux. Par exemple, il existait une ville qui s'appelait Colosse et qui se trouvait du côté ouest de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Or, elle n'avait strictement rien à voir avec le Colosse de Rhodes. Et pourtant, la ville, comme la merveille de Rhodes, tire son nom du mot grec « colossul », qui veut dire « grande statue ». Il y a vraiment de quoi y perdre son latin. Aujourd'hui, c'est la ville de Colosse qui nous intéresse. Ce nom lui fut attribué parce qu'elle se trouve au milieu d'un paysage constitué de rochers aux formes tout à fait bizarres. Autrefois, c'était une cité importante. Mais, au premier siècle, Colosse n'était plus qu'une modeste bourgade. Dans la même vallée, Lycus, se trouvaient les villes de Laodicée et de Hierapolis qui étaient bien plus importantes. Quand l'apôtre Paul rédige l'épître aux Colossiens, on trouve des chrétiens dans ces trois villes, et ils semblaient entretenir des relations entre eux assez étroites. Colossiens 4, les versets 13 à 16. Épaphras, aussi appelé Épaphrodite, exerçait un ministère pastoral auprès de ces trois églises. Colosse était considéré comme la porte de l'Orient, le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest. C'était une cité fortifiée, comme toutes les autres, afin de se protéger des invasions de l'Est. Mais au premier siècle, ce risque n'existait plus parce que Rome dominait toute l'Asie mineure. La population de Colosse était d'origine phrygienne, un peuple indo-européen migratoire, et qui nous a laissé un curieux chapeau que portaient les révolutionnaires et aussi à Marianne. Plus tard, des Grecs et une colonie juive vinrent aussi s'établir à Colosse. L'Épître aux Colossiens fut écrit par Paul aux environs de l'an 60 de notre ère, alors qu'il est emprisonné à Rome en compagnie d'Aristarque. Un autre croyant colossien, chapitre 4, verset 10. Avec les épîtres adressées aux Éphésiens, aux Philippiens, et celle toute personnelle que l'apôtre écrit à Philémon, Colossiens fait partie d'un ensemble qu'on appelle « lettres de captivité ». Parce qu'elles furent toutes rédigées alors que l'apôtre est en résidence surveillée en attendant de comparaître devant César. Les porteurs de ces quatre épîtres sont identifiés dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'Épaphrodite, originaire de la ville de Philippe, qui achemina l'épître aux Philippiens. Philippiens 4, verset 18. Tichide, de la ville d'Éphèse et qui porta les épîtres aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, verset 21, et aux Colossiens, Colossiens, chapitre 4, les versets 7 et 9, ainsi que celle destinée à Philémon, un riche citadin de la ville de Colosse, Philémon 10, à moins que le porteur de cette dernière n'ait été l'esclave Onésime. Puisque Philémon était son maître de chez qui il s'était enfui, mais vers qui il retourna après s'être converti à Jésus-Christ grâce au ministère de l'apôtre Paul. Les quatre épîtres que j'ai citées ont beaucoup de points communs, et bien que chacune développe plus particulièrement au moins un élément de la foi, ensemble, elles touchent tous les aspects du christianisme. Pour cette raison, on les appelle parfois l'anatomie du christianisme ou l'anatomie de l'Église. Ce sont des exposés sur la personne du Christ, la vie chrétienne, l'Église et les relations entre eux. Église universelle est composée de tous les croyants en tant que corps spirituel du Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, le thème principal est l'Église avec une pensée qui monte vers le Christ comme chef de l'Église. Dans l'Épître aux Colossiens, le thème principal est Jésus-Christ avec une pensée qui descend vers l'Église qui est son corps. William Sandey. L'Épître aux Philippiens présente la vie chrétienne comme une dynamique, ce que Paul exprime en disant « Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. L'Épître à Philémon explique comment vivre le christianisme dans une société païenne où la moitié des citoyens sont esclaves. Au sujet d'Onésime, l'esclave évadé, Paul écrit à son ami chrétien « Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. » Philémon, chapitre 17, verset 18. Voilà un exemple de vie chrétienne pratique. L'Épître aux Colossiens souligne donc le rôle de Jésus en tant que tête et chef de l'Église. C'est lui le centre vital de la plénitude de Dieu autour duquel évoluent tous les aspects de la vie chrétienne. Personne n'a jamais porté quatre documents ayant autant de valeur que ces épîtres. Si quelqu'un possédait l'original de ces lettres telle qu'elle fut écrite par Paul, il pourrait demander le prix qu'il voudrait et serait milliardaire. Mais les croyants n'en mesurent pas la valeur en espèces sonnantes et trébuchantes. Ce qui compte avant tout, c'est leur enseignement spirituel, et celui-ci est inestimable. Il est sans prix. L'église de Colosse a probablement été fondée pendant le séjour de 3 ans de Paul dans la ville d'Éphèse, entre 53 et 56, acte 20, verset 31, qui était un centre culturel important de l'Empire romain. Pendant 2 de ces années, l'apôtre enseigna dans une école qui appartenait à un certain Tyrannus, acte 19, verset 9, ce qui veut dire « tyran ». Mais on peut se demander si là était son vrai nom ou le sobriquet que lui avaient donné ses élèves. Pendant que Paul est à Éphèse, la bonne nouvelle de Jésus-Christ se propage dans tout l'ouest de l'Asie mineure, Colossiens 1, verset 7, acte 19, verset 10 et suivant. Jusqu'à Colosse, qui se trouve à 160 km à l'est. Il est probable que Paul y dépêcha Épaphras, le pasteur que j'ai déjà cité, accompagné de jeunes chrétiens qui s'étaient convertis alors qu'ils habitaient Éphèse. Ce groupe constitua le noyau de ce qui devint l'église de Colosse. D'après ce qu'on sait, Paul n'y est jamais allé en personne. Toujours, pendant qu'il est à Éphèse, l'apôtre envoya aussi ses collaborateurs Timothée et Éraste, acte 19, verset 22, en Grèce, pour y répandre l'Évangile. Indirectement donc, c'est Paul qui a été à l'origine de presque toutes les églises d'Asie mineure et même de celle de Rome, parce que, par son ministère, il est entré en contact avec une foule de gens dont beaucoup sont devenus croyants. Ensuite, quand ces derniers sont retournés chez eux, ils ont obéi au commandement de Jésus qui, avant son ascension, a dit « Allez dans tout le monde, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, les versets 19 et 20. À cette époque, les églises en tant que bâtiments n'existaient pas. Et les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Il semble bien que celle de Colosse avait élu domicile dans la grande maison de Philémon, le maître de l'esclave Onésime. L'apôtre écrivait pas aux églises pour tuer le temps, mais parce qu'il avait au moins une bonne raison de le faire. Par l'intermédiaire d'Épaphras, Paul avait appris que l'église de Colosse était menacée par des hérétiques, des gens spirituellement déviants qui s'y étaient introduits. Et ils répandaient des fausses doctrines qui contredisaient l'enseignement apostolique. L'apôtre ne précise pas quelles sont ces fausses idées, mais il les réfute avec force et sa plaidoirie occupe une place importante de l'Épître. Au travers de son exposé, on se rend compte que ses faux frères avaient fait un amalgame entre la religion juive et la philosophie grecque issue de Platon. Ils prônaient la nécessité d'observer les pratiques rituelles, lois et cérémonies de l'Ancien Testament, la circoncision, Colossiens 2, verset 11, 3, verset 11. Et le tout enveloppé dans le mysticisme qui prévalait de cette époque. Ces hérétiques présentaient leur point de vue comme une nouvelle sagesse, à grand renfort de rhétorique. Colossiens 2, verset 4, 8, verset 23. Ces idées continuèrent à se développer au second siècle pour donner des sens au gnosticisme, un mot grec gnosis qui veut dire connaissance. Ce système religieux et philosophique enseigne l'existence d'un Dieu qui est sans relation avec le monde matériel et très éloigné de l'homme. Entre lui et nous existerait une hiérarchie d'êtres intermédiaires dont le Christ faisait partie alors que d'autres auraient créé le monde. Tout ce qui est physique et matériel est considéré comme mauvais, et ce qui est spirituel est du domaine de l'esprit et du bon. L'homme a besoin d'être sauvé du monde matériel et délivré de son corps afin que son âme s'élève progressivement et atteigne Dieu pour se fondre avec lui. Ce salut s'obtient par la connaissance et est réservé à une élite initiée. Le mépris de la matière et de la chair conduisait à deux attitudes opposées. Ceux qui considéraient que le corps n'avait aucune espèce d'importance le livraient à des comportements débridés. C'était un peu l'attitude des Grecs épicuriens. Ceux qui, au contraire, jugeaient que leur cœur était un boulet, une entrave qu'il fallait soumettre et vaincre, s'adonnaient aux pratiques ascétiques. Ils suivaient en cela la philosophie stoïcisme. Ces deux tendances se retrouvèrent dans les assemblées chrétiennes. La première, dans l'église de Corinthe, où l'immoralité s'était frayée un chemin, et la seconde se voit chez les Colossiens, où certains s'abstenaient de certaines nourritures et boissons. Colossiens 2, verset 16, 21, verset 23. Paul oppose la connaissance du Christ à la connaissance d'un mystère et d'un secret divin. Colossiens 2, verset 2. Il met aussi l'accent sur la réalité du corps physique de Jésus et de son rôle dans la rédemption. Colossiens 2, verset 9. Et insiste sur le fait que le salut n'est pas seulement accessible à une élite, mais à tous sans exception. Colossiens 1, verset 20, 28 et 3, verset 11. Dans l'enseignement erroné que répandaient les hérétiques touchés à la personne du Christ, l'apôtre souligne fortement sa prééminence. Colossiens 1, verset 15-19. Il déclare haut et fort que le Christ n'est pas un simple médiateur parmi d'autres, un maillon dans une chaîne d'intermédiaires, mais que rien ne le sépare de Dieu, car il possède en lui-même toute la plénitude de la divinité. D'autre part, Jésus a fait partie intégrante de notre humanité puisqu'il a pris un corps d'homme. Colossiens 2, verset 9. Il a habité parmi nous et en lui. Dieu est aussi près que possible de l'homme. Le Christ est l'image de Dieu. Il l'a révélé et c'est grâce à lui qu'il est possible à tout être humain de connaître Dieu. C'est aussi le Christ qui a tout créé, même les êtres célestes. Dans cet épître, Paul mentionne les seigneuries, les trônes, les autorités et les puissances célestes. Colossiens 1, verset 16, 2, verset 15. Ce qui allait forcément attirer l'attention de ses lecteurs. En effet, à cette époque, l'astrologie orientale exerçait une grande influence sur le monde gréco-romain et les gens croyaient que les puissances astrales gouvernaient l'univers, tandis que les mystiques, qu'ils les considéraient comme des intermédiaires entre Dieu et l'homme, pratiquaient le culte des anges. Colossiens 2, verset 18. Dans son exposé, l'apôtre donne un gigantesque coup de patte à ses prétendus êtres célestes et les descend tous en flammes quand il est écrit. qu'ils ont tous été vaincus, dépossédés par le Christ à la croix et que dorénavant, ses puissances lui sont entièrement soumises. Paul encourage les chrétiens de Colosse à demeurer attachés au Seigneur Jésus qui est le seul Dieu souverain du ciel et de la terre. Colossiens 2, verset 19, 3, versets 3 et 4. Concernant le salut, l'apôtre souligne que la mort du Christ sauve parfaitement tous ceux qui croient en lui, Colossiens 1, verset 22, en les réconciliant avec Dieu. La vie éternelle ne s'obtient ni par des pratiques ascétiques, Colossiens 2, verset 16 à 19, ni par la connaissance d'un système ésotérique, mais par Jésus-Christ, Colossiens 2, verset 2 et 3. Paul attaque de front tous les systèmes philosophiques et religieux en soulignant la dimension cosmique de l'œuvre de salut du Fils. En effet, c'est par Jésus que toute la création a été réconciliée avec Dieu, Colossiens 1, verset 20. Le croyant est donc libre de disposer de tout ce que le Créateur met à sa disposition, le manger et le boire. À l'époque, l'ascétisme et les privations de tout ordre étaient le moyen que les mystiques employaient pour obtenir des visions qui, croyaient-ils, élevaient l'homme vers Dieu. Ces pratiques leur donnaient l'illusion de faire partie d'une élite qui avait accès au secret divin. Mais elles étaient vaines et engendraient l'orgueil et l'autosatisfaction. Colossiens 2, versets 18 à 23. À ces comportements bassement humains, Paul oppose l'humilité du croyant qui se confie en Dieu, qui attend tout de lui et qui considère les autres comme plus importants que lui-même. Colossiens 3, verset 12. L'idée comme quoi la divinité est le grand tout universel et que l'homme peut se confondre avec elle est le dogme principal du panthéisme, un point de vue qui est aujourd'hui très à la mode par le biais des religions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme qui ont le vent en poupe en Occident. Paul, au contraire, enseigne que le but de l'homme est d'être en communion avec Jésus-Christ, Colossiens 4, versets 2 et 4, afin de paraître devant lui irréprochable et sans faute, Colossiens 1, verset 22. Après sa résurrection, le Christ est monté au ciel pour siéger à la droite de Dieu et régner. Comme le croyant est uni à lui, il devient citoyen du ciel et de son royaume, Colossiens 1, verset 13, 3, versets 1 à 4. En conséquence, sa vie doit refléter cette vérité. L'Épître aux Colossiens est à la fois la carte et la boussole qui permet aux chrétiens d'éviter les écueils de l'existence. Les croyants doivent toujours faire face au danger de tomber dans un carcan de pratiques figées par des rituels. C'est ce qui est arrivé à tant d'églises où tout ce qui se déroule est affaire de routine, bien rodée, comme du papier à musique. Le danger opposé est pour la foi de se transformer en un système intellectuel fait de théories fumeuses qui évoluent dans la société et qui emprisonnent les paroissiens aussi sûrement que des sables mouvants. Jésus a dit « Je suis l'eau vive ». Il n'a pas dit « Je suis la glace pétrifiée » ni « Je suis une vapeur nébuleuse » mais « Je suis l'eau vive ». Cette eau vive et à température ambiante, ni glacée, ni bouillante. Cette nouvelle vie, c'est le Christ et lui seul qui la donne. Paul écrit aux Colossiens qu'il était friand d'ésotérisme, que le mystère de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Bible de Louis II, révisée. Dans le premier siècle de notre ère, les hérésies diverses sont apparues qui ajoutaient ou soustrayait à l'enseignement du Christ et des apôtres. C'est pareil aujourd'hui, comme quoi le vieil adage « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » se vérifie constamment. Paul enseigne que l'essence du christianisme, c'est le Christ, car, dit-il, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Charles Wesley, 1707-1788, associé au mouvement méthodiste, composa près de 7000 cantiques. Dans l'un d'eux, il écrit Toi, ô Christ, es tout ce que je veux, plus que tout. En toi, je trouve. » Et le grand évangéliste anglais, Charles Spurgeon, a dit « Considère que tu n'es rien du tout. Sois humble, mais regarde à Jésus, ton grand médiateur, et réjouis-toi. Tu t'épargneras beaucoup d'angoisse si tu apprends à te considérer en lui. » Le croyant est accepté tel qu'il est en Jésus-Christ, et c'est en lui qu'il peut trouver tout ce dont il a besoin. Ce qui se confie en lui ne ressemble pas le besoin de s'assujettir à des rites, et ils n'ont aucun intérêt pour les théories fumeuses qui flottent ici et là concernant, par exemple, l'inspiration des textes sacrés. Les gens disent n'importe quoi à ce sujet. Soit on croit que l'ensemble des Écritures est la parole de Dieu, soit on n'y croit pas. Je ne peux pas choisir en fonction de mes propres critères ce qui me va et ce qui ne me convient pas. Dans certains milieux théologiques, il est bon ton de paraître en coupant les cheveux en quatre. C'est pure vanité. Dans la partie pratique de l'Épître aux Colossiens, Paul décrit l'effet que devrait avoir la personne du Christ dans la vie quotidienne des croyants. La vie chrétienne est une confiance sereine en Jésus et un style de vie où le Christ est présent partout avec le croyant dans ses occupations quotidiennes et où il se trouve. Les fidèles sont appelés à répandre la bonne odeur de Jésus autour d'eux afin de contrebalancer et même neutraliser la puanteur morale et spirituelle qui infecte notre monde. Je commence maintenant à lire l'Épître aux Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée salue ceux qui, à Colosse, sont unis au Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Colossiens 1, les versets 1 et 2. Selon la coutume de l'époque, la lettre commence par le nom de l'auteur. Le mot « apôtre » veut dire « ambassadeur, messager de la bonne nouvelle ». Paul n'a pas décidé un beau matin « je serai un envoyé de Jésus-Christ », mais il a été choisi par Dieu pour ce ministère. Acte 9, verset 15. Soit dit en passant, cette évocation a donné un sens à sa vie. La meilleure façon d'être bien dans sa peau est de se savoir dans la volonté de Dieu. Cette épître est centrée sur Jésus-Christ, ainsi nommé 26 fois, alors que le mot « Seigneur » revient 7 fois. Elle est adressée à ceux qui appartiennent à Dieu et qui lui sont fidèles. Il s'agit d'une seule catégorie de gens. Timothée était un disciple de Paul et il devient un de ses plus proches collaborateurs. Son père était grec, mais sa mère et sa grand-mère étaient juives et pieuse. Elle lui avait inculqué la foi israélite dès sa plus tendre enfance. Acte 16, verset 1, 2 Timothée 1, 5 et 3, verset 15. L'apôtre mentionne Timothée dans la salutation de quatre autres épîtres qu'il rédigea. 2 Corinthiens, Philippiens, 1 et 2 Thessaloniciens, Philémon. Et lui écrivit personnellement deux lettres. Les Colossiens étaient ainsi appelés simplement parce qu'ils se trouvaient dans la ville de Colosse. Mais ce qui compte vraiment est qu'ils étaient en Christ. En effet, la question la plus importante qui peut poser n'est pas « Où habitez-vous ?» mais « En qui êtes-vous ?» Ce questionnement peut paraître bizarre, mais il est capital. Ceux qui sont sans domicile fixe mènent une vie misérable et il est indispensable de posséder une adresse ici-bas. Cependant, en avoir une dans l'au-delà est immensément plus important. Et s'il fallait choisir entre une demeure assurée dans le royaume des cieux pour l'éternité et le plus luxueux des palais terrestres, aucune hésitation n'est possible. Comparé à la plus humble des chaumières du paradis, Versailles est un taudis. L'apôtre Paul avait une façon bien particulière d'introduire ses lettres. Dans les 13 que nous possédons de lui, il commence toujours en mentionnant la grâce et la paix. Les Grecs se saluaient comme les Français en disant « salut »,« ker » en grec. Luc 1, verset 28. L'apôtre a choisi « charis », un mot de la même racine que « ker », mais il signifie « grâce ». Les Israélites se saluaient en disant « shalom », qui veut dire « paix ». Pour connaître la paix de Dieu, il faut avoir expérimenté sa grâce.